franceinter.fr. France Inter, il est 8h30. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Stéphane et bonjour à tous. Il s'appelle Quentin Pléplé, il a 27 ans, il est polytechnicien, il habite à Grenoble et il a fondé avec sa mère une start-up qu'ils ont baptisée Short Edition. C'est une entreprise qui compte aujourd'hui 15 salariés et dont l'objectif au départ était de mettre en relation sur une plateforme internet les écrivains de la région avec leurs potentiels lecteurs. Une seule contrainte pour les auteurs, que leurs textes se lisent en moins de 20 minutes. Le succès est au rendez-vous. À ce jour, le site revendique un fonds de plus de 40 000 textes et près de 165 000 lecteurs. Et comme les bonnes idées en entraînent souvent d'autres, le jeune homme et sa mère ont par la suite imaginé de rendre accessibles ces textes dans les lieux publics. Et pour ce faire, ils ont conçu une machine étonnante, un distributeur de nouvelles. Sur le modèle des distributeurs de boissons et de barres chocolatées. En octobre dernier, une première borne a été installée dans le hall de la mairie de Grenoble, parfait pour patienter avant un rendez-vous. On choisit la durée de l'histoire, 3 minutes, 5 minutes, tout dépend du temps que l'on a. Et la borne délivre alors un texte sur un bandeau de papier. Une nouvelle fois, le succès est au rendez-vous, nous explique Corinne Laine dans M, le magazine du Monde. Et depuis, une vingtaine d'autres bornes sont apparues un peu partout en France, dans les gares de Rennes, de Brest, de Quimper, de Bordeaux, ainsi qu'au centre commercial Italie 2 à Paris. Et désormais, on en trouve même une aux États-Unis, dans un grand restaurant du quartier italien de San Francisco, en l'occurrence, le restaurant appartenant au réalisateur Francis Ford Coppola. Après avoir eu vent de l'initiative dans la presse américaine, il a lui-même contacté par mail la start-up grenobloise, dont les salariés ont d'abord cru à une blague, mais non, Coppola voulait une machine, il voulait sa machine. Et à son tour, il rêve de voir fleurir des bornes à histoire, des bornes à nouvelles, des distributeurs de nouvelles aux États-Unis, dans les bars, dans les parcs et dans les files d'attente des administrations. Et se dit-il, pour que les citoyens puissent accéder gratuitement à la culture, hommage à la culture papier, hommage à la culture tout court et hommage aux petites histoires. Dans la presse d'ailleurs, tous les jours, il y a de petites histoires.
Une histoire d'injustice, notamment comme celle de ce SDF condamné à de la prison ferme pour avoir volé de la nourriture.
C'était le 13 mai dernier. Et c'est l'Humanité Dimanche qui revient sur l'affaire. Un sans domicile fixe âgé de 18 ans, condamné à 2 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Cahors parce qu'il avait volé du riz, des pâtes et une boîte de sardines dans une maison de Figeac. Pour sa défense, il a expliqué qu'il avait faim. Vous avez dit justice, s'interroge l'hebdomadaire en soulignant que ceux qui fraudent dans les paradis fiscaux sont, eux, rarement condamnés. Une courte histoire de malchance ensuite, dans Libération. C'est l'histoire du jeune tennisman tricolore Constant Létienne, 206e joueur mondial, qui avait bénéficié d'une invitation pour participer à Roland-Garros cette saison. Il était ainsi assuré de toucher au moins 30 000 euros, montant du cachet versé à ceux qui sont éliminés dès le premier tour. Mais jeudi soir, la Fédération française de tennis lui a finalement retiré son invitation pour manquement au règlement anticorruption qui interdit aux joueurs de parier sur leur sport. L'an dernier, sur un site de paris en ligne, Constant Létienne avait misé la somme de 2,90€ pour la finale du tournoi de Roland-Garros. Un pari à moins de 3€ qui le prive aujourd'hui d'un gain 10 000 fois supérieur. Et puis, une autre histoire sportive dans le Parisien. Courte histoire là encore, celle de Mourad Lachraoui, devenu cette semaine champion d'Europe de taekwondo. Il est de ce fait qualifié pour les prochains JO qui vont se tenir à Rio. Lachraoui, ce nom vous dit sans doute quelque chose, normal. Mourad est le petit frère de l'un des terroristes qui s'est fait sauter il y a 2 mois à l'aéroport de Bruxelles. On ne choisit pas sa famille, avait déclaré le champion au lendemain des attentats, précisant qu'il avait rompu tout lien avec son frère depuis le départ de celui-ci pour la Syrie. On ne choisit pas sa famille, mais si l'on vote, on peut choisir les dirigeants de son pays. Et cette fois, il n'est plus question d'histoire de 3 ou 5 minutes. C'est l'histoire avec un grand H que pourraient écrire demain les électeurs autrichiens. Le bruit des bottes se rapproche, titre l'Humanité Dimanche, symbole d'une Europe de plus en plus nationaliste, le candidat de l'extrême droite, Norbert Höfer, ingénieur de 45 ans, est donné favori pour le second tour de l'élection présidentielle.
Et le sujet fait à la fois la une du Figaro et de Libération.
L'Europe au défi de l'extrême droite, annonce le premier, tandis que le second lance un très alarmant Hartung. Édito dans Libé de Johann Schneigel, il y a de nombreuses leçons à tirer pour les Européens d'une possible victoire de l'extrême droite en Autriche. Et la première, dit-il, c'est que les incantations et les incessants rappels aux heures les plus sombres de notre histoire n'ont plus aucun effet. Du reste, poursuit-il, ce 21 avril autrichien doit rappeler à tous que les lois copier-coller des thèses populistes ne ramènent pas les électeurs à la maison, mais donnent au contraire de la crédibilité aux thèses des adversaires. Message aux politiques français, message à ceux qui courent après le Front National. Dans le Figaro, Philippe Gély, lui, se souvient de l'épisode Jörg Haider. En 2000, une alliance du pouvoir viennois avec l'extrémiste Haider avait suffi pour que l'Europe montre les muscles et inflige un boycottage relativement symbolique à l'Autriche. Or, aujourd'hui, constate-t-il, cela semble dépassé. Des courants similaires sont partout et ont partout le vent en poupe, en France, en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie, en Finlande, en Allemagne. Ils n'ont peut-être pas les bonnes réponses, dixit Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, mais ils menacent clairement le consensus de ceux qui prétendent les détenir, les réponses. Juncker, c'est dans Le Monde qu'il s'exprime. Il fait part de son inquiétude à la perspective de voir l'extrême droite l'emporter en Autriche. Je me suis senti obligé de dire que je ne les aime pas. Les Autrichiens n'en paraît-il pas apprécié, mais je m'en moque. Avec l'extrême droite, assure-t-il, il n'y a ni débat ni dialogue possible. Le résultat du vote, ce sera donc demain soir. Et le débat en France, où en est-il aujourd'hui ? Rompu, visiblement, ou disons asséché, comme le sont également les pompes des stations-service.
Oui, conséquence des blocages de plusieurs dépôts de carburant par des opposants à la réforme du Code du travail.
Un sujet qu'on retrouve à la une de quasiment l'ensemble de la presse régionale ce matin. Dans l'Ouest, le carburant se fait rare, constate aujourd'hui le Parisien. Carburant la peine sèche, confirme le Havre Libre, tandis que la Dépêche du Midi nous explique qu'à Toulouse, les opposants à la loi travail menacent désormais de s'en prendre à l'Euro 2016. Ils annoncent des actions pour les deux premiers matchs, ce qui provoque la colère du ministre des Sports. De son côté, le site Huffington Post a décidé de faire dans l'info pratique avec une carte en temps réel des stations-service en pénurie près de chez vous. Une carte que le site présente comme une exclusivité. De son côté, le Figaro a aussi son exclu avec une longue interview ce matin du cardinal Barbarin. Hier soir, l'influent cardinal français, éclaboussé par des affaires de pédophilie dans son diocèse de Lyon, a confirmé rester à son poste au terme d'un entretien avec le pape François au Vatican. Le pape qui lui a donc apporté son soutien, tout en estimant que les évêques ayant protégé des pédophiles devaient démissionner. Si la justice mettait en lumière un grave manquement dans la conduite de ma mission, une démission serait une perspective à envisager, mais pour l'heure, ce n'est pas responsable. Ce serait même contraire à mon devoir. On ne quitte pas le navire en pleine tempête, écrit et dit surtout Monseigneur Barbarin dans les colonnes du Figaro ce matin. Selon lui, le pape lui a hier redit sa confiance et lui a conseillé, je cite, d'attendre paisiblement que la justice ait accompli sa mission.
Le quotidien dresse par ailleurs ses pronostics pour le palmarès du Festival de Cannes qui sera rendu
demain soir, et c'est à lire dans le supplément culture du Figaro. Palme d'or, selon les critiques du journal, pour Tony Erdmann de Marraine à deux. Grand prix pour Baccalauréat de Christian Myungu. Meilleure actrice, Marion Cotillard dans Mal de pierre et Juste la fin du monde. Et puis le Figaro s'amuse à donner également un prix pour le pire acteur, Jean Reno, dans The Last Face. Un exploit en quatre répliques bien senti, il réussit à voler la vedette à Charlize Theron. Jean Reno, alias Dr Love, sick, transforme le nanar de Sean Penn en chef-d'œuvre dadaïste. Et puis pour rester dans les pronostics amusants, lire cette petite page dans Téléops qui, là encore, nous dit comment va se passer la cérémonie de demain soir. Le vainqueur de la Palme d'Or du court-métrage fera un discours plus court que son film. En quatre gros plans sur les réalisateurs et comédiens présents dans la salle, même le téléspectateur le plus à l'ouest aura dès les 5 premières minutes une idée très précise du palmarès. Un acteur ou une actrice rendra un hommage appuyé au cinéma, à la vie, à Nuit debout et à la féerie du montage, suivi d'un long silence embarrassant. Enfin, le téléspectateur assistera médusé à une standing ovation après l'annonce du prix du jury, un film au titre incompréhensible qui ne sortira que dans 3 ans. Et dans deux salles, les histoires de cinéma ne sont pas toujours de grandes histoires, Patricia.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.